Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. Vous voyez les deux QG avec l'explosion de joie dans les deux QG. Voici la suite des résultats avec Anne-Sophie.
Oui.
Les électeurs ont tranché il y a une semaine. Comme il y a 5 ans, ils ont décidé de porter au second tour de l'élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Tirant probablement bénéfice des divisions de la gauche dans un vote qualifié d'utile, Jean-Luc Mélenchon a rallié 22% des suffrages. Score insuffisant pour se qualifier, mais dont l'importance en fait un acteur clé pour dimanche prochain. La campagne a sans surprise été animée par les débats sur l'immigration, le pouvoir d'achat, la sécurité et, contexte oblige, sur la politique internationale. Pourtant, après la publication du rapport du GIEC, les questions d'environnement n'ont été que peu traitées sur le fond.
Comment c'est possible? Nous, moi, depuis que je suis gamin, les experts, le GIEC, toutes les études montrent qu'on va au-delà de la fin du monde telle qu'on connaît et on n'en parle pas.
Autre quasi absente de la campagne, la cohésion sociale, les problèmes de logement, de vivre ensemble, comme on dit maintenant.
Plus ça va, plus on retrouve des gens dans la précarité, surtout depuis la crise de Covid. On a une population qui est de plus en plus dans la précarité et qui ont besoin de prétendre à un logement social parce qu'ils ne peuvent plus financer le logement privé.
Certains politologues voient dans cet effacement l'une des raisons de l'abstention massive. 26,3% des électeurs et plus de 40% des 18-35 ans ne se sont pas déplacés. C'est pourquoi Vanessa Descoureaux et Manuel Ruffez ont posé leur micro, l'une à Tours, dans un quartier qui compte 93% de logements sociaux, et l'autre à Marseille, étape du Relais Jeunes, un tour de France de militants écologistes. Dans ce reportage, on va les retrouver alternativement à partir du soir du premier tour de l'élection. Présidentielle, climat et justice sociale, les oubliés du premier tour. C'est un reportage de Vanessa Descoureaux et Manuel Ruffez avec une prise de son de Fabien Gosset.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
On va suivre cette soirée électorale avec les organisateurs du Relais Jeunes dans un lieu à Marseille qui s'appelle La Base. Alors La Base, c'est un rassemblement d'associations, de collectifs, c'est un lieu militant, c'est un lieu alternatif. Et c'est là-bas vraiment qu'on va suivre les résultats de ce premier tour de la présidentielle avec donc les organisateurs du Relais Jeunes.
D'accord, j'essaie de les joindre.
Mais non, mais viens, je vous accompagne de près. Ah là là. Merci. Bah, y a pas de soucis. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Pierre.
Salut.
Fabien.
Bonjour.
Salut,
enchanté. Bonjour. Ouais, Pierre, bonjour.
Manuel,
Fabien,
enchanté.
Ça va?
Ça va bien.
Bonjour à tous.
Vous voulez me prendre une petite bière avant ou commencer la présentation direct?
Peut-être plutôt après, ouais.
Okay.
Du coup, je m'appelle Pierre Taillem. Et du coup, on va suivre les résultats des élections présidentielles ici avec plein d'autres militants de différents milieux, pas mal environnement, social, et tout ça.
Ça réunit des associations, des
c'est
collectifs,
ça, ouais, exactement.
À vocation sociale, environnementale.
Ouais, exactement. C'est ouais, ça. Donc ouais. On s'est dit qu'on allait se tenir un petit peu chaud en cette soirée.
Tous ensemble, ouais. Ouais. Vous avez des appréhensions?
Ouais, un petit peu. On en a tous parlé pas mal là. Puis on voit pas le truc se profiler très très bien. Mais on va bien voir. Peut-être qu'il y aura une surprise.
Il y a un peu de stress, il y a un peu d'inquiétude.
Il y a un peu de stress, ouais, un peu d'inquiétude, un peu de peur de ce que les résultats vont nous faire aussi, je pense. Stress, mélange de peur, stress et un tout petit peu d'espoir pour certains, mais pas tout le monde.
Ouais.
Donc voilà.
La peur, c'est que l'environnement soit plus.
Ouais, la peur, ouais. C'est d'un second tour. Et donc d'un mandat sans programme environnemental, quoi. En fait, nous, on a lancé le Relais Jeunes pour qu'on parle d'environnement dans le débat public et notamment dans le débat présidentiel puis législatif. Et là, on va avoir un second tour, on va pas parler d'environnement a priori. Enfin, on va
a
bien
priori,
voir le
résultat. Ouais, on verra.
Et du coup, on a un peu peur d'un. Du coup, on parle de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, mais que l'environnement, la crise climatique soit juste pas un sujet, quoi. La crise sociale et la crise démocratique non plus.
Et là, voilà. Vous allez parler entre vous déjà, là?
Un petit peu, ouais, ouais. On attend de voir aussi, ouais. Là, on va un petit peu pour essayer de se détendre avant, et on va voir.
Tout le monde est un peu réuni dehors dans la cour.
Presque une ambiance de jour de finale de Coupe du Monde, tu vois.
Ouais,
de,
ouais.
On sait pas et tout, mais voilà.
Ouais.
On va voir.
Bon.
Vous avez écouté peut-être
après. Ouais.
Let's go.
Bureau de vote 1662, nous sommes à Tours, en Indre-et-Loire, quartier du Sanitas, c'est un quartier populaire de plus de 8000 habitants, avec un revenu médian annuel de 7 500 €, ça fait à peu près 635 € par mois, c'est presque 3 fois moins que la moyenne nationale. Il est bientôt 19h, ça veut dire que c'est bientôt la fermeture de ce bureau de vote, pour bien évidemment commencer le dépouillement. Voilà.
N'attendez plus que vous pour terminer.
Oui, je suis la dernière alors.
Louisa, ici. Ah, il y en a deux derrière.
18h58, ce qui pourrait être les derniers électeurs viennent de rentrer dans l'isoloir.
Je vais prendre votre carte d'identité, s'il vous plaît. À voter. Merci. Merci.
Bonne journée, merci.
Merci.
Merci. Bonne soirée. C'est bon.
Voilà, derniers électeurs, le dépouillement va pouvoir commencer. Les assesseurs doivent préparer un peu les choses.
Et c'est fini.
Maintenant, c'est fini.
Nous sommes à 1 heure de la révélation des 2 finalistes de cette élection présidentielle. On va rappeler l'estimation de l'abstention. Elle est de 26,5% selon nos partenaires Ipsos Soprasteria. On va faire une courte pause, ne serait-ce que pour prendre connaissance de la météo. Et puis nous accueillerons nos invités politiques pour commenter les résultats et débattre. A tout de suite.
Donc, vous les mettez par paquet de 10 et vous les comptez 2 fois, s'il vous plaît.
Emmanuel Macron. Philippe Poutou. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Emmanuel Macron. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. C'est son air de gloire. Pardon. Marine Le Pen.
Blanc et Gaël. Blanc ou
Non, mais du coup, c'est Sacha.
Sacha, d'accord. Et donc, un des fondateurs du mouvement.
Ouais, du coup, je suis le fondateur du Relais Jeune. C'est une idée que j'ai dans la tête depuis 3 ans et qui s'est concrétisée là en septembre. Quand on a vu un petit peu comment se profilaient les élections présidentielles, il y a tout un groupe de réflexion, d'assaut de jeunes engagés qui se sont réunis pour essayer de déterminer une stratégie de mobilisation de la jeunesse commune en vue des élections présidentielles et législatives. Et du coup, j'ai parlé de cette idée qui me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et ça s'est vachement emballé. Et puis du coup, on a monté ça assez rapidement. Et voilà, aujourd'hui, on est à Marseille.
Et puis, vous aviez l'impression que les candidats ne portaient pas ce message. En tout cas, c'est surtout ça aussi, non ?
Ouais, en fait, plus que les candidats, parce que les candidats reflètent finalement quelque part ce que la société civile pense, c'est que ces idées-là sont, on le voit, hein, sont une source de préoccupation quand on pense à l'environnement, la justice sociale, les dénis de démocratie. Ça fait souvent partie des plus grandes préoccupations des Français et des Françaises. Mais en fait, à l'heure de voter et à l'heure de vraiment le faire vivre dans le débat public, c'est relayé au second, au troisième plan, derrière l'emploi, derrière la croissance, etc., la sécurité. On disait, mais comment c'est possible ? Nous, moi, depuis que je suis gamin, les experts, le GIEC, toutes les études montrent qu'on va au-delà, en fait, de la fin du monde telle qu'on connaît, et on n'en parle pas. Et face à ça, bah, soit on tombe en dépression, c'est le cas de beaucoup de gens qui nous ont rejoints, et on a reçu beaucoup de témoignages de gens qui disent en fait je suis trop petit face à une montagne insurmontable. Et une fois qu'on passe ça, moi ça a été mon cas, ben, quand on passe au-delà, on se mobilise, on s'organise, on essaie de faire autrement pour pas rester les bras croisés face aux catastrophes en cours, quoi.
Merci beaucoup. On va rentrer, puis on va tous se retrouver là-bas à l'intérieur pour suivre le résultat de ce premier tour. À tout de suite.
Ça marche.
Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue pour ce grand direct ce soir. 50 minutes maintenant avant de découvrir le résultat de ce premier tour de l'élection présidentielle.
On est d'accord qu'on a 3 bulletins nuls. On va passer au score des différents candidats. Alors, Emmanuel Macron.
32, plus 22, plus 23, plus 10.
87.
Emmanuel Macron, 87. Marine Le Pen.
15, plus 22, plus 11.
48.
Marine Le Pen, 48. Jean-Luc Mélenchon.
35, plus 34, plus 50, plus 19.
138.
138. Jean-Luc Mélenchon, 138.
On vient d'avoir les résultats des deux bureaux de vote du quartier. Dans l'un d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec 40% des voix. Dans le second, il obtient même une voix sur deux, 50% des suffrages. Emmanuel Macron est à une vingtaine de pourcents à peu près et Marine Le Pen n'excède pas les 14% dans ces deux bureaux de vote.
Oh, ça va être dans 3 minutes, hein, si vous jamais voulez savoir ce qui se passe.
Donc là, on est rentré dans la salle de la base, de l'association. On est dans cette pièce où il y a beaucoup de monde, où la télévision est projetée là-bas. Voilà, on a les résultats qui vont être projetés. Tout le monde est en train de se réunir dans cette pièce, dans l'attente.
Merci d'avoir choisi France 2 pour vivre.
Des premiers résultats à 20h.
C'est quand, ça, 20h?
C'est l'épilogue de cette campagne. Il reste maintenant 10 secondes. Il y avait encore 11 millions d'investis ces derniers jours. 7 secondes, un président sortant et 11 challengers. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%. Devant Marine Le Pen avec 23,3%, la même année qu'en 2007.
23.
Au terme de ce premier tour, vous venez les deux sujets avec une grande voix de plus de
20%.
Mais putain, si jamais il avait une quatrième. Mais
mon quatrième,
après il est loin, loin
d'un
Mélenchon.
Il a 7 ans
quand
il
mélange.
Si Jadot il donne ses voix, c'est bon.
Hidalgo,
là. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Il n'y a pas de mots?
Bon, on est tous dégoûtés.
Il va falloir se battre pour changer tout ça.
On est tous dégoûtés qu'il y a un second tour sans putain d'environnement, de justice sociale et que... Il y a le rapport du GIEC qui est sorti lundi, on est dimanche, ça fait 6 jours et il se passe rien, quoi.
Macron Le Pen, c'est pas du tout... Il porte pas du tout l'écologie,
Non, factuellement, non. C'est pas une analyse personnelle, c'est une analyse de dizaines d'associations qui bossent là-dessus toute l'année et qui estiment que c'est des programmes, l'un comme l'autre, qui sont au niveau zéro de la justice sociale et de la démocratie, de l'environnement surtout, quoi. Et du climat encore plus, donc c'est choquant. Voilà.
Ça va? C'est dur.
C'est chiant. Non mais enfin oui, c'est chiant parce qu'on se dit qu'à nous, enfin en fait il y a moyen, en fait les gens ils sont prêts quand même à un certain changement, ils portent ces valeurs là et juste parce qu'ils se mettent pas ensemble et bah du coup.
T'en es loin,
et
plus, hein.
on a mais nous.
Tu suffis juste d'assister Jadot et Mélenchon, voilà, et c'est bon.
Additionne Jadot, Mélenchon.
J'ai additionné les deux seuls programmes environnementaux et c'est bon.
C'est juste que les gens. Tu vois, Macron, t'as personne.
Il a fait une non-campagne, le mec fait pas un débat, on entend rien, et il fait 28%, c'est plus qu'en 2017.
Le mec respecte pas le jeu de. Voilà. Le jeu de la démocratie que de participer à des débats et qu'en fait ça ne change rien, quoi.
En fait, t'as quand même. Un tiers de la population, enfin tu rajoutes Le Pen plus Zemmour, enfin qui sont sur les enjeux, qui sont pas du tout ceux qui sont vraiment importants pour notre génération. Peut-être que tu rajoutes les candidats qui prennent sérieusement l'écologie à cœur. Putain, ça veut dire que le chemin il est encore tellement long pour aller changer les mentalités aussi individuelles et tout. Enfin, on est tellement loin.
Ouais, et en même temps, ce pronostic, là, on fait semblant qu'on est surpris, on est triste. En vrai, on le savait. Jadot, il le savait très bien aussi. Il y a un moment donné, ils auraient pu ce matin se dire, ok, les gars, on fait quoi si c'est si important que ça? Tu mets ton ego de côté de deux minutes et tu vois.
Moi,
ça m'enrage. Mais c'est vraiment.
Pas. D'accord. Donc très bien. Peut-être que de toute façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on gagne une élection, enfin une primaire. Ensuite, faut gagner le second tour. Et dans 5 ans, on fait quoi? Et dans 10 ans, on fait quoi? Enfin, tu vois, ça se reflète. Enfin, un autre jour, on parlait à une classe de terminale, je vous racontais. On a passé 4 heures à leur parler. Il y en avait peut-être un ou deux par classe qui étaient vraiment engagés. La moitié, ils savaient même pas ce que c'était le changement climatique. Mais c'est pas des enfants, ils avaient 18 ans.
Okay, mais c'est des responsables politiques. Ils sont. Tu vois, il y en a.
Ça n'a rien à voir. Ils sont éduqués. Enfin, ils sont conscients de ce dont on parle, même presque plus que nous. Et pourtant, tu vois, ça tu te mets pas de côté, quoi. T'es conscient de ce qui se passe et tu te mets pas de côté, genre.
Ouais. Ça rend ouf, quoi. De voir que les années passent et que les choses ne bougent pas.
On a vécu genre depuis 5 ans quand même des trucs assez hard, genre les catastrophes, le Covid, etc. Les gilets jaunes, et on arrive au même second tour.
Bon les gars, il y a les législatives, hein. On se remobilise, ce soir on pleure, demain on bosse, voilà, c'est reparti pour un coup. Et dans 5 ans on fera la même et bis repetita et basta quoi.
Sauf que pour mourir, il reste que 3 ans pour changer les choses, donc c'est dommage quoi.
Je me rapproche de vous, Mina Hazzi.
Oui.
Vous le prenez mal si je dis que vous êtes une figure du quartier du Sanitas?
Non, je le prends pas très mal parce que j'aime bien ce que je fais et donc ça me fait plaisir.
Vous faites plein de choses, vous pouvez les énumérer s'il vous plaît?
Je suis au conseil citoyen, au conseil de quartier. Je suis sur un projet territoire zéro chômeur longue durée et je fais partie de la coordination Passons Nous qui a fait la tournée de France avec nos quartiers en de la gueule.
C'est pour ça que vous connaissez bien votre quartier du Sanitas. Oui. Vous venez de procéder au dépouillement. Vous vous sentez concernée par un deuxième tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen?
Non. C'est décevant, c'est ça comme ça. Je voterai blanc. Oui. Je fais mon devoir, mais ça sera ni pour l'un ni pour l'autre.
Il y a 5 ans, lors du deuxième tour, déjà Macron-Le Pen, vous aviez fait quoi?
J'ai voté Macron. Parce que pour moi, c'était, on voyait la nouveauté, on se disait peut-être que ça va changer le pays, mais il l'a changé, mais dans l'autre sens. Et ça, on en a souffert, entre les gilets jaunes, entre les retraités, c'est sûr qu'il a eu aussi des moments de Covid qui ont compliqué son mandat, mais dans son programme, de toute façon, il n'était pas concentré sur les bas salaires ou bien les revenus les plus modestes ou la santé ou le logement. C'était pas dans son programme, de toute façon.
Aucun de ces deux finalistes ne pense aux quartiers, ne parle des quartiers?
Aucun, parce qu'il parle seulement de la discrimination, de la sécurité, d'immigration. Et c'est ce qui les préoccupe. Mais le pouvoir de vivre, la santé, le logement, le travail, aucun d'eux ne porte ce sujet-là.
C'est quoi votre sentiment ce soir, quelques minutes après les estimations nationales?
Je suis très déçue. Ouais.
Déçue et en colère aussi peut-être?
Oui, parce que j'ai l'impression que tout le travail qu'on a fait n'a pas donné ses fruits. Franchement, je ne trouve même pas mes mots. J'étais vraiment... tout à l'heure quand je suis arrivée et que je voyais Mélenchon, je me disais ça y est, on l'a. Mais là, quand les comptes sont sortis, alors franchement ça m'a refroidi.
Merci beaucoup Mina, je vous laisse rentrer à la maison.
Merci
pour
beaucoup.
Une soirée qui s'annonce pas très festive.
Ouais. c'est triste quand même ce dimanche. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous Mina, merci, à bientôt.
Merci.
Allô? Ouais, attends deux secondes, je me fais interroger par la radio. Suite à mon vote, je m'interroge vite fait, je te rappelle. A tout de suite. Vas-y, je reste.
Ciao! J'ai l'impression qu'il vous aigrit. Hein.
Oui, mais bon, c'est pas grave, même si je me crois pas.
Quel est votre prénom et votre âge?
Je m'appelle Jires Kane, j'ai 23 ans.
Premier vote pour la présidentielle?
Oui, premier vote. J'ai voté pour Mélenchon. Je trouve que c'est le meilleur candidat, il a proposé beaucoup de choses et ça arrange le peuple. C'est l'homme du peuple, en fait, on va dire, dans l'histoire.
Et vous avez suivi les résultats? Vous savez qui sera au deuxième tour?
Moi, pour le moment, j'ai vu que c'était Mélenchon. Hein.
Au deuxième tour, il sera pas là, Mélenchon?
Il sera pas là? Il est pas passé? Mais non, c'est impossible.
Oh, il n'est pas passé Mélenchon. Comment ça, il n'est pas passé?
Le deuxième tour affrontera Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Comme...
C'est bon, on vote.
Mais non. Mais non. Mais non, c'est impossible. Si, sérieux? Le deuxième tour, là?
Non.
Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi. Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire.
Et ben voilà, on est lundi matin, on va retrouver donc Sacha, Elisa, Pierre, Louise, Gaëtan, Marion notamment, qui sont dans un appartement là devant nous, rue de la Loche, c'est vraiment sur le Vieux-Port. Ils sont là, on va aller faire le point avec eux, on va aller voir comment ils se sentent en ce lendemain de premier tour, et on va voir comment ils pensent envisager l'avenir, comment ils pensent reconstruire leur mouvement. Et après, nous repartirons à Tours.
D'accord, allô ?
Pierre, c'est Manuel.
Oui, c'est Hugo A.
Ok, à tout de suite, on sonne.
Salut.
Ça va, tu as dormi ?
Salut.
Ça va ?
Ça, c'est la chanson qu'on met pour se réunir. Là. Pour ce
c'est
Kong.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est le Kong, ouais.
D'accord. Et là, Jojo ?
Tu avais bien dormi ?
Ça va.
Vous avez dormi trop tard hier soir ?
Non.
Moi, je suis en 3 heures.
Après, il y en a pour dîner.
En fait, en couchant, j'ai vu que l'écart était réduit à 0,8%. Du coup, je suis resté 1 heure comme un connard.
Est-ce que vous voulez le canapé, peut-être ?
Je vais rester debout. Bon, vas-y, je commence.
Du coup, moi c'est Sacha. Par rapport au premier tour, déception, c'est sûr. Je pense que comme nous tous, on a pris un petit peu une claque hier. Ce matin, je m'arrivais plus avec une colère, une rage de continuer à faire valoir les valeurs qui sont les nôtres. Pour moi, c'est sur les législatives que ça va se jouer. De toute façon, comme d'hab, faut qu'on reparte en résistance.
Je m'appelle Esther. Bah, j'ai aussi peur que ce soit encore pire qu'il y a 5 ans, en fait, les résultats. J'ai l'impression que tout le monde se dit, bon, bah voilà, ce sera encore Macron, mais moi, j'ai vraiment peur. Je sens qu'il y a un vrai risque que ce soit Le Pen, et moi, ça me fait profondément peur, en fait, parce que je me sentirais extrêmement étrangère, en fait, dans ce pays, si c'est Le Pen qui passe. Ensuite, oui, les législatives, bah, je me demandais, est-ce que c'est vraiment sur ça qu'on peut miser? Parce que si les gens se mobilisent pas sur le climat au présidentiel, est-ce que vraiment, aux législatives, on va réussir à faire bouger les choses et faire en sorte qu'il y ait des gens qui se disent, en fait, c'est là que ça se joue? Ouais, j'ai un peu de désespoir en fait dans toute la situation et j'ai du mal à être vraiment optimiste, même si en vrai je sais qu'il faut garder le cap et il faut pas lâcher, mais je trouve ça difficile.
Je m'appelle Gaëtan. Leçon d'hier soir aussi, c'est que les 18-35 ans ont voté à gauche, donc pour moi il faut vraiment qu'on fasse contre-pouvoir et utiliser ce levier là, donc s'organiser entre jeunes, sachant que de toute façon les vieux ils vont bientôt mourir, donc... Donc c'est à nous de définir notre avenir. Je pense qu'il faut qu'on se mouille un peu plus et voilà, mettre en avant les luttes locales au maximum.
C'est juste une conclusion de ce premier tour. Je pense que c'est hyper important qu'on partage nos émotions et c'est bien et c'est normal qu'on soit tous déçus. J'aimerais juste vous rappeler quand même ce qu'on a écrit, qui est la raison d'être du manifeste du relais jeune. Nous prenons le relais parce que nous pouvons et devons faire de la politique à notre échelle, parce que même si ça en fait partie, être citoyen ne se résume pas à voter une fois tous les 5 ans. À nous de nous organiser et de faire vivre un débat national de fond, loin des politiciens aux agendas court-termistes. Partout en France, de jeunes militants, activistes et bénévoles se passent le témoin et prennent le relais pour donner du sens à leur vie, pour tisser du lien, pour faire autrement, pour esquisser les contours d'un monde respecté des humains, du vivant de notre monde. En réalité, si on se rappelle de pourquoi est-ce qu'on le fait, ce texte qu'on a tous coécrit, qui donne sens au relais, on le savait. On peut être en colère contre les candidats court-termistes, et c'est le cas, tout le monde a joué perso, et ça continue à légitimer le texte qu'on a écrit, qui est archi d'actualité, alors qu'on l'a écrit il y a 6 mois, et on est en plein dedans en fait. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Oh, nowhere I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
Oui, 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 bien sûr, monsieur. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci.
C'est menace, il y a plein de prix là, monsieur, madame.
C'est jour de marché au Sanitas. Vous avez voté, vous, au premier tour ?
Oui.
Est-ce que vous comptez le faire au deuxième ?
Oui. Je suis une entêtée, une obstinée.
De quoi ?
De ce que, à mon point de vue, est le bon sens.
Pouvez-vous en dire plus, madame ?
Mais je crois que, à l'époque actuelle, il faut éviter les trop gros changements. C'est mon point de vue. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'apprendre le russe. C'est tout.
Donc je comprends que vous allez voter pour Emmanuel Macron.
Bah oui, j'avoue, mais à coup de pas. Pour la raison toute simple que, étant donné la conjoncture, il faut pas prendre de risques. Je crois que ce serait inconséquent de retourner, de trop changer.
Est-ce qu'Emmanuel Macron a été votre choix du premier tour également ?
De ce
premier tour.
Oui. Pour la même raison.
Je peux vous renvoyer à 2017, est-ce que c'était déjà le cas ?
Ah non ! Non. Je souhaiterais connaître dans ma vie une admiration, une vénération pour un candidat. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Là, ça vous semble le choix de la sagesse, mais pas de la passion, en tout cas.
Ah non, pas de passion. Pas de passion. Juste la sagesse.
Alors, le nom de ce marché, c'est le marché Saint-Paul. Une barre HLM a été démolie il y a à peu près 2 ans, au pied de laquelle il y avait un seul et un unique point de deal connu des forces de police. Et depuis, il y en aurait une dizaine, un peu partout dans le quartier. C'est exactement d'ailleurs ce qu'avaient anticipé, ce qu'avaient redouté les habitants qui se sont largement mobilisés contre la démolition de cette barre.
Vous ne vivez pas dans le quartier, là, si vous y viviez, vous verriez que vous me comprendriez tout de suite.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'ici, c'est un tenac, quoi. On est retraité et on vit très mal. Parce qu'ici, c'est l'épouvantable. Vous voyez, d'abord, là, il y a eu des voitures brisées hier. Moi, j'habite ici, là,
dans le bâtiment. Dans la tour, juste en face ?
Non, pas dans la tour, dans le bâtiment qui est là. Et je peux vous dire, ça fait 50 ans que je suis ici. J'ai élevé mes 3 filles ici. Mon mari a 84 ans. Moi, je vais en avoir 78 et on va être obligé de s'en aller. Vous voyez ce qu'il y a à l'entour. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Pour vous décrire, dire qu'il n'y a que des étrangers ? Que des étrangers ici, hein. Vous voyez, ce matin, on n'arrive même pas à faire un marché avec quelqu'un de français. Sinon, c'est épouvantable.
Vous avez voté pour le premier tour ?
Oui, j'ai voté. Puis je revoterai la même chose. Ben, par Marine Le Pen. Voilà. Que voulez-vous y faire ? Qu'est-ce qu'on a fait pour nous depuis 5 ans ? Rien. On sort, moi j'ai un petit chien, ils font du rodéo. Ici, on ne peut même pas passer. Le week-end, on a passé un week-end épouvantable avec les motos, les quads qui marchent sur 2 roues. On s'occupe de Paris, mais ici, on ne s'en occupe pas. Hein. On n'a rien à faire. Hein.
C'est la première fois que vous votez Marine Le Pen ?
Oui, c'est la première fois que je vote Marine Le Pen, sûr, oui. Puis j'en connais pas mal hein, qui font la même chose.
Hein. Avant, vous votiez qui, si ce n'est pas trop indiscret ?
Moi, je suis de droite, alors je votais de droite, hein. C'est pas possible. Nous, on avait plein de gens au marché. Moi, mes filles étaient petites, moi, je les habillais sur le marché. Hein, il y avait des vêtements. Là, vous êtes. Oui, ici, il y a un boucher, quand même, chevalin. Vous êtes un charcutier, mais vous n'avez plus rien. Plus de Français qui viennent sur le marché. Puis moi, je suis par principe que je ne leur achète pas. J'achète aux Français, mais il n'y en a pas. Alors, vous voyez, je vais même re-rentrer que je ne vais rien avoir acheté.
Votre cabas est vide.
Est vide, voilà.
Madame, je vous laisse rentrer chez vous. Merci
d'accord.
Beaucoup.
Allez, ben bon courage.
À vous aussi, madame. Au revoir.
On est coupé, on prend direct, on met dans les cages.
C'est la fin du marché et le centre social du quartier, qui s'appelle Pluriel. Le centre social est allé chercher les invendus auprès des commerçants. Et désormais, il s'agit de distribuer ces invendus aux habitants du quartier.
Moi, je m'appelle David Ferli et je suis médiateur social ici au Centre Social Pluriel.
La première chose que l'on voit d'ailleurs en rentrant dans le Centre Social, c'est une énorme banderole bleue « Je vote ».
Dans les quartiers populaires, généralement, les gens ont du mal à aller voter. Ils se disent que c'est pas pour eux. Donc nous, on a fait le choix de mettre une grande banderole, comme c'est un lieu de passage, pour que les gens y voient et que ça les interpelle et que ça les pousse à aller voter. Je dirais que ils ont une conscience politique. Après, de là à aller s'engager dans un combat politique ou dans un parti politique, c'est autre chose. Je vois pas vraiment de réel changement, en tout cas de réelles propositions qui vont changer la vie des gens des quartiers, en fait. Un, il dit on va donner un chèque énergie, l'autre, il dit on va donner un chèque je sais pas quoi, chèque je sais pas quoi. Mais les gens des quartiers, ils ont pas besoin de chèque. C'est bien, mais c'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de vivre décemment, dans des lieux salubres, et d'avoir un environnement de vie propice à avoir une bonne vie, avec de l'argent pour pouvoir vivre décemment. Donc, dans ça, les deux, personnellement, je ne me retrouve pas dans leur discours. Et je pense que les gens des quartiers, ça, le vote pour Mélenchon l'a prouvé, les gens des quartiers ne se retrouvent pas non plus là-dedans. Et j'avoue que c'est vrai qu'on a eu une élection un peu particulière. Bon, après sortie de Covid, et puis la campagne, je pense autant pour les candidats à l'élection que pour les citoyens, ben, on a eu du mal à vraiment faire un choix définitif. Je pense que moi, pour ma part, et aussi pour les gens.
Du coup, à quoi il faut s'attendre pour le deuxième tour avec le tableau que vous nous décrivez ? Là, vous faites de grands yeux.
Alors là, je ne sais pas du tout. Je dois dire que même moi, dans ma position, je suis mitigé. Je ne sais pas du tout. Mais j'avoue que je pense que les gens sont dans la même situation que moi. Ils sont aussi perdus. Ils se disent, purée, on a voté pour lui, il est pas passé, maintenant on se retrouve avec elle et lui qui revient. On n'a pas envie de le revoir et on n'a pas envie de la revoir. Donc comment on fait? C'est ça qui est compliqué.
Là, pour l'entre-deux-tours, vous mettez un petit coup d'accélérateur sur la mobilisation, la participation, ou vous laissez les choses se faire naturellement?
Disons, moi, dans ma fonction, je suis plus du style à aller vers les gens, discuter. Je vais pas aller forcer, faire des tracts par exemple, mais par contre on discute librement, comme hier on s'est assis avec des habitants là, dans le... et puis on a discuté librement. Alors vous en pensez quoi? Il y a un habitant qui est venu nous voir, allez, alors vous pensez que Marine Le Pen elle va passer ou Macron il va passer? Comment c'est? Moi, je lui dis, moi je peux pas te donner mon avis, moi je te dis juste c'est compliqué. Il m'a dit, ouais mais bon, moi je pense Marine Le Pen elle va passer. Des petites discussions comme ça, simples. Mais c'est dans ça qu'on arrive des fois à détecter une certaine conscience politique. Le tout, c'est à quel moment je vais franchir le pas d'y aller et de voter pour un tel ou pour un tel. Et des fois, c'est un petit truc qui fait que ça va déclencher l'envie d'aller. Le plus important, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui a manqué dans la campagne. Que les gens discutent. C'est un pays de débat ici. Mais là, il n'y en a pas eu.
Il n'y a pas, ou très peu, eu de débat dans cette campagne du premier tour sur des questions essentielles du quotidien. Vivre en harmonie, dans un quartier agréable, dont la conception émane des habitants eux-mêmes, c'est une de leurs aspirations majeures. Démonstration avec Vanessa Descoureaux, toujours dans le quartier du Sanitas à Tours, avec ses 93% de logements sociaux.
Interception sur France Inter.
Voilà. Un des secteurs qui était mentionné enclavé, donc il fallait démolir pour désenclaver, alors que c'était un secteur qui était très occupé par les habitants. Certains secteurs, les habitants, ils se prennent le lieu en format, vous voyez, comme petit quartier, dans le quartier. C'est-à-dire qu'ils sont tous, solidaires et en lien entre eux. Ça s'est perdu, ça. Et on perd tout ça avec ces démolitions.
Comment vous vous appelez, monsieur, et quelles sont vos fonctions ?
Alors, moi, je m'appelle Mickaël Lorillard. Alors, j'ai plusieurs fonctions. Dans un premier temps, je suis responsable technique et logistique au Centre Social Pluriel, au 6 avenue Général de Gaulle, un ancien cofondateur administrateur de Centre Social. Et à côté de ça, je suis un des représentants, on peut dire, de la Confédération Nationale du Logement sur le département.
et ancien habitant du Sanitas.
Et ancien habitant du Sanitas pendant 43, 44 ans même, je dirais.
Alors là, où sommes-nous ?
Alors, on est sur le secteur Marie Curie. Il y a eu ici, il y avait tout un U. Donc, trois bâtiments hein, qui ont été démolis.
Qu'est-ce qui va pousser ici à la place ?
Il va y avoir le nouveau centre social, il va y avoir le tiers-lieu, il va y avoir un espace de jardinerie et tout ça.
Et des logements aussi ?
Alors, des logements, mais de Bouygues.
Pas sociaux, donc ?
Non, il y aura pas de... Ah non, non, ils ne peuvent pas construire de logements sociaux sur leur démolition. Ça, c'est sur le protocole en rue. Quand ils démolissent des logements sociaux, ils n'ont pas à reconstruire des logements sociaux, quel que soit le bailleur. Ils peuvent reconstruire sur l'extérieur, mais pas sur le secteur qu'ils ont démoli.
Donc ce ne seront pas des gens du quartier relogés ici ?
Non. Ah bah non, ils ne peuvent pas. Ça sera de l'accession à la propriété. Enfin, c'est des loyers qui sont excessivement chers. Pour nous, déjà, la CNL, c'est notre but principal. On se bat pour éviter de démolir des logements sociaux, surtout qu'on en a plus besoin que sur les demandes. On peut avoir sur 100 demandes, on peut fournir 20 logements. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous, c'est les bailleurs.
C'était une priorité de démolir ces logements sociaux ici ?
Non, non. En tout cas, pas pour moi. Moi, pour moi, la priorité, c'est de loger les gens selon leurs moyens. De remodeler un quartier, je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, il faut le remodeler. C'est toujours avec la vie, les besoins et des habitants. C'est les habitants qui doivent modeler leur quartier. C'est pas une personne qui est derrière son bureau en disant « Bah tiens, je vais détruire le bâtiment là, puis je vais y mettre quelque chose à la place qui répondra pas aux habitants. » Vous voyez, la barre Saint-Paul a été démolie. Il y avait toute une barre de commerce au rez-de-chaussée qui était la barre de commerce centralisée pour tout le quartier, pour tous les habitants. Il n'y a plus ce petit commerce, ce petit artisan où que les gens, ils n'allaient pas que acheter. Il y avait cette relation qu'on a connue, nous, quand on était jeunes, avec nos parents. Cette relation avec le boulanger, avec le boucher, avec le bureau de tabac et tout ça. Puis il y avait aussi la poste. Parce que là, ils ont enlevé la poste, il n'y a plus de service public. Et nous, on redemande du service public. La poste, Pôle emploi. Enfin, c'est hyper important.
J'enregistre du son. C'est bon ? Tous ces équipements collectifs, comme les jardins ou la cuisine partagée, comme le tiers-lieu ou encore le café social, tout ça a été proposé par un collectif d'habitants porté par des associations locales. L'idée, alors c'est peut-être bizarre de le formuler comme ça, mais l'idée, c'est d'associer les habitants à leur propre avenir.
Je suis Ida Tesla, je suis artiste associée dans une association qui s'appelle Pipo, et Pipo c'est hip-hop à l'envers.
Ce que l'on réalise ici au Sanitas et puis dans bien d'autres quartiers populaires partout en France, c'est que l'habitat est une question majeure pour les habitants. Or, c'est un thème qui n'a pas ou très très peu été évoqué dans cette campagne présidentielle. Vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi ?
Bah oui, parce que quand c'est évoqué, c'est toujours on donne des milliards pour les quartiers. Voilà, c'était Borloo. Alors Borloo, en plus maintenant, c'est devenu l'idole de tout le monde parce qu'on est tellement régressif en matière de politique de la ville que ce qu'il y avait avant paraît. Bon, c'est quand même une aberration, quoi. C'était il y a des milliards pour les quartiers. Non, en fait, c'est des politiques d'urbanisme. Nous, moi, je suis metteur en scène, donc dans le secteur culturel, on connaît très bien ça aussi. On nous dit que c'est des milliards pour la culture. Quand il y a, par exemple, l'île 2004 ou des choses comme ça. Mais non, c'est des milliards pour l'urbanisme. Point barre. Donc, il faut juste être honnête, dire que c'est des opérations d'urbanisme. Pour nous, c'est une opération vraiment de politique de la ville. C'est-à-dire, la politique de la ville, c'est dans les quartiers les plus pauvres de France, la lutte contre les inégalités sociales. Donc, on va créer les outils et les équipements collectifs dont les gens ont besoin. D'abord, pour qu'ils puissent vivre en centre-ville, donc ça, c'est les logements. Et puis, pour qu'ils puissent exercer leur activité, se développer, vivre leur vie professionnelle, leur vie de travail, leur vie culturelle, quoi.
Vivre mieux ou vivre moins mal que c'est le cas aujourd'hui ?
Ça va dépendre des gens, parce que c'est vrai qu'on est dans des quartiers, en tout cas à Tours, au Sanitas, parce que... qui sont très mixtes socialement, en fait. Donc, il y a des gens extrêmement pauvres dans le plus grand dénuement, et puis il y a des gens qui sont des classes moyennes, en fait. Et c'est ça qui est super, et qui est super dynamique. Pour la ville, c'est un poumon vraiment vivant. Les gens sont hyper actifs, hyper motivés.
Et quand on les associe à un projet, est-ce que les gens s'abstiennent autant que lors d'une élection présidentielle ? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de participation ?
En fait, ça dépend comment on s'y prend. Nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est notre méthodo. C'est-à-dire que si on fait des réunions publiques et qu'on attend que les gens s'y rendent, et qu'on se met dans une logique, vous venez à telle heure, tel jour, et c'est nous qui avons l'agenda, on va vous dire de quoi il faut parler. Puis en plus, on se met face à face pour être sûr qu'on est bien dans des oppositions binaires. Bon, bah, c'est, forcément, ça engendre ce qu'on connaît déjà. Nous, l'idée, c'est qu'en fait, la participation citoyenne, elle se fait partout. Elle se fait au marché, elle se fait dans la rue, elle se fait à la sortie des écoles. Là, les gens, ils parlent tout le temps politique, en fait. Même ceux qui se rendent pas aux urnes. Ils font que ça toute la journée. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble et surtout, comment on arrive à se mobiliser tous ensemble sur des questions concrètes qui nous habitent. Et c'est à partir de ça, si ça marche. C'est-à-dire que si en face, les interlocuteurs, ils veulent bien ouvrir des portes, ils veulent bien que le contrôle leur échappe un peu, et ils veulent bien que les citoyens obtiennent des résultats, bon, bah, du coup, ça nous permet, nous, de comprendre comment se fabrique la ville, comment les décisions sont prises, et comprendre les limites aussi du pouvoir politique, parce qu'il a des limites, ça, tout le monde est capable de le comprendre, et se dire, il y a un espoir. Donc oui, je vais aller voter. Si tout est fermé, pourquoi j'irai voter ?
Voter, s'engager, c'est aussi le credo des militants écologistes qu'on retrouve à Marseille avec Manuel Ruffez. Ils lui ont donné rendez-vous sur un site emblématique, la Calanque de Sugiton, un lieu paradisiaque malmené par les touristes qui s'y précipitent au premier rayon de soleil, au point qu'il va falloir en restreindre l'accès.
Moi, je m'appelle Maïlis et je travaille pour l'association Wings of the Oceans.
Alors ça y est, on est arrivé, on est dans les calanques, on surplombe tout, c'est somptueux quand même.
Ah oui, c'est magnifique. Ben, je pense que là, on est sur le belvédère à côté de la calanque de
Sugiton.
Sugiton,
juste
c'est
là.
Exactement ça. Ouais. Donc voilà, on est vraiment dans un des plus beaux spots qui surplombe la Méditerranée au niveau des calanques.
Et vous, ce qui vous marquez, c'est que là-bas, au fond, dans les terres, ouais. On voit une torchère, c'est ça ? On voit une flamme là-bas au fond. Hein.
Exactement. En fait, là, on voit ce qui aurait pu être le cas ici, c'est-à-dire l'industrialisation du port pas très loin du port de Marseille-Fos. Et donc, la flamme, là, c'est la flamme de la raffinerie de pétrole qui est donc vraiment pas très loin et sur le port de Marseille.
Ouais. Qu'on a vraiment vu, effectivement, d'ici.
Ah, oui.
Et pourquoi vous vouliez nous amener ici ? C'est un site remarquable, protégé.
C'est un site très beau qui est très accessible à pied et c'est un lieu qui va bientôt être, dont l'accès va être réduit pendant l'été justement pour essayer de gérer au mieux la biodiversité et le tourisme, enfin la fréquentation de ce lieu. Donc je pense que c'est intéressant de venir sur des endroits qui sont au cœur de la problématique environnementale dans le parc national des Calanques.
Cette calanque-là de Sugiton, effectivement, l'été, il va falloir réserver pour pouvoir venir et le nombre de personnes qui pourra venir sera...
Réduit, ouais. Oui, on fréquente beaucoup certains lieux, ben, le piétinement, les déchets, ça va avoir un impact sur la biodiversité et sur les lieux qu'on visite. Et donc ici, ben, l'impact, c'est qu'il est trop grand pour qu'on continue comme ça.
Ouais. Effectivement, il y aura une problématique déchets. On va peut-être voir avec Théo, qui représente le parc national, justement, il va nous expliquer ça. Merci
voilà.
Beaucoup.
Merci.
Alors, du coup, moi, je suis Théo, je suis stagiaire au Parc National des Calanques, dans le pôle éducation et environnement. Il faut savoir que depuis le premier confinement, on a eu beaucoup de fréquentation sur les calanques, plus qu'avant la période Covid, puisque les gens, après le confinement, ont eu cette volonté d'aller dans l'espace naturel. Et donc, il y a eu des... On a une fréquentation qui a été estimée à 3 millions d'auditeurs en 2020. Et ces personnes n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans l'espace naturel. On les a vus se balader dans les calanques, aller faire des randos en tongs, sans crème solaire, sans protection pour la tête, sans chapeau, sans casquette. Et aussi, on a retrouvé des montagnes de déchets sur l'espace des calanques. Et l'idée, c'était de mobiliser un très fort tissu local associatif de Marseille pour nettoyer les calanques, pour sensibiliser les personnes qui sont sur place, avec le même objectif d'éducation, de sensibilisation. Et voilà.
Elisa.
On rentre de cette calanque, là, de cette visite avec les associations, avec le parc national qui nous a permis de discuter de ça. Comment vous l'avez vécu, Elisa, cette visite ?
Bah moi, ça m'a fait énormément de bien, parce que j'étais un peu en dépression depuis... Enfin, dépression très triste depuis hier soir, hyper angoissée, boule au ventre, etc. Et là, ça va parce que parce qu'on était au contact de la nature, on voit qu'il y a plein de belles choses. Et je suis vraiment persuadée aussi que c'est via des lieux comme ça qu'on peut éveiller les gens sur les questions environnementales et climatiques, parce que les gens, ils ont envie de protéger ce qu'ils aiment. Et je suis persuadée qu'en fait, tous les gens qui viennent s'émerveiller devant ces paysages ont juste envie aussi de protéger ces espaces. Et je pense que ça peut être un levier d'action hyper fort, les Calanques.
Sauf qu'on voit qu'il y a quand même ici aussi des problématiques de déchets, de plastique, de mégots, de cigarettes.
En plus, je trouve que la thématique des déchets a ce truc frustrant que c'est hyper visible, contrairement à d'autres choses comme les émissions de gaz à effet de serre, comme la pollution atmosphérique. Et que malgré ça, enfin, tout le monde trouve ça dégueu quand on le voit, et que malgré ça, ça continue. Donc je trouve que la question des déchets, c'est un truc qui est particulièrement frustrant. Mais je pense que pour autant, le dialogue n'est pas foutu. Et je trouve ça trop cool que dans le parc national, il y ait des éco-gardes qui justement discutent avec les gens pour leur parler de ce que ça fait, chaque acte et chaque trace qu'on laisse dans cet environnement. Et je suis sûre que ça peut que évoluer vers le positif. Parce que vraiment, enfin, j'ai peut-être un peu trop confiance dans les gens, mais je suis persuadée que personne se dit « Ah ouais, je suis en train de dégrader cet espace, ça me fait vraiment kiffer. » Enfin, genre, je pense que tout le monde a une éthique et une conscience plutôt bienveillante, et s'il est informé, il aura envie enfin ces gens-là auront envie d'améliorer les choses, quoi.
Présidentielle, climat et justice sociale, les oubliés du premier tour, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux et Manuel Ruffez. Prise de son, Fabien Gosset. Réalisation, Jérôme Chélius. Mixage, Olivier Dupré. Un reportage déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr.